Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Se reconstruire dans un monde meilleur, en tout cas imaginer un monde meilleur, après les terribles mois que nous venons de vivre, en espérant qu'il soit terminé, mais ça c'est encore une autre histoire, nous avons envie de penser qu'il y a un monde meilleur, que entre nous, nous pouvons être différents, que le monde peut être différent, que nous pouvons communiquer, aimer, vivre, penser, tout simplement, oui, vivre différemment. Dans un monde plus humain, avec plus d'humanité, plus d'écoute, et savoir de toute façon et comprendre que nous devons, nous pouvons vivre avec l'autre, en espérant que cette épidémie nous aura appris au moins une chose, que le monde est un village et que le monde est à tous. Bonjour docteur Xavier Emmanuelli.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes pour Délivrez-vous. Alors vous avez coécrit ce livre Se reconstruire dans un monde meilleur aux éditions Human Science en collaboration avec également Boris Cyrulnik qui est psychiatre également. Vous êtes médecin réanimateur anesthésiste, vous êtes le cofondateur de Médecins sans frontières, fondateur du SAMU social international, bref, deux personnalités engagées, je dirais, dans l'humain et dans l'humanitaire. Ce livre, c'est un dialogue entre vous deux, Se reconstruire dans un monde meilleur. Pourquoi avoir choisi d'abord, alors vous vous connaissez depuis très longtemps et fort bien, pourquoi avoir choisi ce piano à quatre mains?
D'abord parce qu'on est des vieux copains, on se comprend bien.
Oui.
On s'est en quelque sorte suivi tout le long de nos études. On était très proches en première année de médecine, il y a fort longtemps. Et de proche en proche, on s'est aperçu qu'on avait en quelque sorte la même vision de l'humanité.
Oui.
Et puis, sur nos vieux jours, et pendant que cette épidémie, je lui ai téléphoné, je lui ai dit quelle trace ça va laisser sur les enfants, parce que lui, c'est un peu sa spécialité.
Oui, la famille.
De proche en proche, on a discuté. Et on n'avait pas forcément l'intention de faire un livre, mais nos discussions. Et puis, c'est aussi la providence que nous a fait rencontrer l'éditrice. Et elle a dit, mais écoutez, c'est un dialogue où vous progressez dans la discussion. On pensait pas un livre, mais un opuscule, quelque chose voilà, qui va rester.
Alors, ce livre, je disais, c'est un dialogue avec de très beaux dessins qui sont de votre fait. Bravo pour cette plume, ce coup de crayon, ce coup de pinceau, fort intéressant et très animé, en tout cas très coloré. J'ai trouvé ça très beau.
Merci.
C'est un de vos nombreux talents, j'imagine.
Écoutez, au début de ma médecine, je me demandais, j'avais un petit talent, c'est vrai.
Oui.
Mais s'il fallait continuer dans la médecine, dans le dessin, c'était un choix. Mm-hmm. Et avec un papa médecin, je me suis dit, il l'aurait accepté, mais ça lui aurait fait de la peine de ne pas suivre sa trace. Voilà. Mm-hmm. Et du coup, j'ai juste un petit talent sans technique, mais ça donne les contours, si vous voulez.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est ce que je veux dire.
Oui. Alors, il y a une phrase qui m'a marquée, qui était à la fin de votre ouvrage, et j'ai envie de partir un petit peu sur là-dessus parce que ça m'a porté à réflexion. Je crois que c'est d'Henri Bergson que l'univers est une machine à fabriquer des dieux.
C'est vrai.
Et je me suis dit finalement, cet univers-là, il est capable que dans chaque homme. Est-ce qu'on peut penser que ça veut dire que dans chaque homme il y a quelque chose de bon? Et que chaque homme est capable de faire, de comment dirais-je, créer l'immensité d'un travail d'un dieu.
Écoutez, là, vous êtes juste à la limite, parce que si vous développez, on va dire, oui, mais vous êtes croyant. Si vous êtes en deçà, c'est difficile à justifier. Je pense que, profondément, qu'il y a la déité en chaque homme, même le dernier des hommes. À cette part de déité. Mmh. Ce que je crois aussi, c'est que le cosmos en entier, dans sa complexité, dans ses mystères, c'est comme une espèce de pâte à modeler. C'est-à-dire que la genèse est en train de se créer. Mmh. Et je pense que la place de l'homme, tout, tout est en quelque sorte conscience dans les plantes, dans les êtres, et encore plus dans les hommes, mais qu'on a la faculté, avec notre transcendance, à créer du sens et de créer notre destinée. Mmh. Et l'univers, il est fait pour ça, pour la création. Pardon de mon engagement aussi naïf.
Non,
mais je crois ça. Et donc, comme je l'écris, je veux dire, l'homme appartient à une créature multiple, à l'humanité. Oui. On n'est qu'une petite cellule. Mais tous ensemble, on peut créer le monde et être dans le domaine des dieux. Voilà mon engagement.
Ça me fait penser justement, parce que vous parlez des hommes, de la nature, aux sociétés maoris ou arborigènes qui sont polythéistes et qui, pour eux, chaque dieu, chaque esprit est dans un arbre, dans un buisson, dans l'homme, dans l'herbe, dans un désert. Et ça m'a fait aussi un petit peu penser à ça, à cette universalité de l'esprit et de la croyance, finalement.
Pas besoin d'être maori.
Oui, non, c'est vrai.
Non, mais je veux dire, l'univers est une pensée d'abord.
Oui.
Et tout est vie.
Oui.
Quand on dit est-ce que la vie existe ailleurs que sur notre planète, la vie existe partout.
Oui.
Partout. La première cellule était vivante.
Et oui.
Était attirée par la lumière ou par le plus salé ou par le plus chaud. Il y avait déjà ce qu'on appelait le tropisme.
Oui.
Au fur et à mesure que l'évolution est passée, ce tropisme a été centralisé, a donné une instance supérieure jusqu'à ce qu'on arrive à l'homme, au cortex. Mais tout est pensé. Tout est pensé. Et il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand la prière de Saint François soit louée, Monseigneur, pour toutes les créatures, et en effet, toutes les créatures ont quelque chose de la pensée. Vous voyez.
Alors,
c'est ce que je pense vraiment et profondément.
Alors, on s'aperçoit dans votre dialogue que, de par votre expérience l'un et l'autre, de la rencontre avec les autres, en tant que médecin, vous, au travers le monde, votre expérience, vous tentez d'apporter des solutions, des réponses, qui parfois engendrent d'autres questions. La preuve, puisque je m'en suis posée, mais c'est ce qui fait la richesse de votre livre, plein d'humanité, aussi plein de conscience. Se reconstruire dans un monde meilleur. Vous dites aussi que finalement, on n'a pas entamé cette pandémie égo, on n'en est pas sorti égo, mais que malgré tout, ça peut être une source d'espoir pour chacun de nous, un regard différent sur l'autre.
Alors, je vais vous dire, première chose, cette pandémie nous a fait, même pour ceux qui en étaient éloignés, penser à la mort, c'est-à-dire à notre finitude.
Oui.
Et les gens étaient stupéfaits, parce qu'ils n'y pensaient pas. C'était jour après jour, c'est carpe diem, si vous voulez. Et tout d'un coup, on a senti notre fragilité. Et ça, c'était une découverte, parce que on était dans un monde assez hédoniste, ou de la consommation, du désir, que sais-je. Et tout d'un coup, ça a complètement changé notre point de vue. Ça, c'est la première chose. Et la mort a fait son apparition dans nos pensées. La deuxième chose, donc à notre statut sur la Terre.
Oui.
Et la deuxième chose, on s'est aussi aperçu qu'on était dans un environnement fragile, qu'on parle jour après jour de changement climatique et tout ça. Nous-mêmes, on était appelés à changer, l'environnement a changé, et ça a remis les choses en question. Quand on ne retrouvera pas les jours prétendus heureux d'abord, il va falloir changer. Pas seulement changer, pas évoluer. On va aller vers une métamorphose. On va changer de fond en comble pour pouvoir survivre. Et sans ça, il y aura d'autres calamités, d'autres épidémies. Parce que c'est notre rapport à l'environnement qui a créé ces épidémies.
Bien sûr.
Donc, les jours meilleurs, il va falloir regarder autour de nous qu'est-ce que nous valons, que nous ne sommes des créatures humaines que des créatures sociales, que dans les échanges avec les autres. C'est pour ça que c'est extrêmement encourageant d'avoir une épidémie comme celle-ci. Un, qui nous a fait prendre conscience de notre finitude. Deuxièmement, qui nous a fait prendre conscience de notre environnement. Et c'est pour ça que moi, je citerai volontiers le mot de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde.
Oui, et espérons le, en tout cas. Mais ce qui est important aussi dans votre dialogue, moi, ce qui me réconforte, enfin qui m'a rassurée quelque part, c'est pas forcément le cas de tous les scientifiques et médecins que l'on a entendus durant tous ces mois et que l'on entend encore, et même dans la pensée ou dans l'expression des gens, c'est que vous avez une confiance fondamentale dans l'autre, dans l'humain, que de toute façon notre sauvegarde viendra également de cette communion, communication avec l'autre, d'avoir conscience de l'autre, chose que l'on n'avait peut-être pas forcément avant. Il y a un changement aussi de ce métabolisme intellectuel, dirais-je.
Mais oui, parce que on a pris conscience qu'on était en danger de mort, tous, avec le même statut, avec notre même fragilité, et qu'on construira ensemble notre avenir. On ne peut pas recommencer comme avant à ignorer et les autres et l'environnement. Bien sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain, mais petit à petit quelque chose, une petite graine qui s'est répandue. Ça, je ne peux pas vous dire mes intuitions.
Oui.
C'est à force de rencontrer les uns, les autres, des jeunes. Regardez comme leur discours a changé. Par exemple, sur le diplôme, sur la carrière, ils attendent quelque chose. Ils attendent quelque chose qui n'est pas encore abouti. Donc ça va changer. C'est pas d'être prophète, mais c'est de sentir qu'il y a une espérance. J'essaye de. Et Boris pense aussi comme moi. On va essayer de la communiquer parce qu'on le sent.
Est-ce que vous avez aussi le sentiment que les gens vont aller plus à l'essentiel, c'est-à-dire moins s'arc-bouter sur ce qui peut paraître un peu lénifiant ou secondaire et aller à l'essentiel?
Mais déjà, regardez comme la parole des présumés experts ou politiciens est mise en doute.
Oui.
Avant, ben, c'est comme
C'était parole
le maître
d'évangile.
d'école,
Oui, tout à
le
fait.
chef, il disait une parole qu'on ne remet pas en question. Là, on a relativisé un peu, parce que les gens ne savaient pas, les experts n'avaient, enfin, sauf des très vieux, n'avaient jamais vécu une épidémie. Ils ont confondu d'ailleurs une épidémie gravissime avec cette épidémie qui n'était pas si grave que ça, mais qui est grave, mais pas si grave que ça, qui n'était pas la peste, qui n'était pas
Tout à
Ebola,
fait.
ni la fièvre de Marbourg. C'est une épidémie qui ne tuait pas tant que ça. Et les experts, qui n'avaient pas vécu personnellement, ont dit un peu n'importe quoi et dans tous les sens, hein.
Oui.
Et les politiques, les pauvres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils suivent leurs experts. Et donc il y a eu un trouble sur la parole du sachant. C'est une nouveauté, ça.
Ah oui. C'est-à-dire que le sachant doit savoir quoi qu'il
Il n'y
en
a pas de
soit,
doute.
et il n'y a pas de doute. Mais là, le doute s'est instillé, c'est-à-dire qu'on a vous dire par là qu'on a osé un peu aller à l'encontre, avoir des doutes et se faire son propre avis aussi.
Non, c'est pas qu'on a osé, c'est que les paroles se sont croisées, elles ont été contradictoires. Si vous voulez, c'était le côté de l'écho médiatique.
Oui.
Les gens disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils connaissaient, et souvent, ça s'entrecroisait avec d'autres expertises, et qui contredisaient, mais sans le vouloir, sans le savoir, puisque on était dans un monde inconnu. Donc ils ont dit ce qu'ils savaient. Mais personne n'avait vécu, de mémoire historique,
Oui.
des grandes épidémies. Donc du coup, les politiques, ils font que suivre les experts, ils ne peuvent pas l'inventer. Et donc du coup, on a relativisé la parole de l'expertise, et il y a eu un doute qui s'est insinué. Mais c'est bien parce que ça oblige les gens à réfléchir,
Oui.
même si ça donne un peu d'angoisse.
Oui. Alors, il y a un chapitre aussi, c'est vivre avec le virus. C'est notre quotidien entier qui a changé de par l'apport du masque. C'était pas dans notre culture, dans nos us et coutumes. Apprendre un certain nombre de choses. D'ailleurs, il faut rappeler aux auditrices, auditeurs qu'il ne faut pas perdre de vue les gestes barrières parce que encore aujourd'hui, pour quelques mois, c'est encore très important parce que le virus est toujours là et il semble galoper de nouveau un peu. Mais vivre avec le virus, c'est aussi avoir un comportement social différent, professionnel, amical, amoureux. Tout dans notre comportement a été modifié par la force des choses aussi.
Mais si vous voulez, c'est comme si on avait acquis une maturation, une plus de maturité.
Oui.
De savoir que en germe, si on ne fait pas attention, on peut transmettre quelque chose à la grand-mère qu'on aime. Si on ne fait pas attention, on peut transmettre au bébé. Qu'il faut faire attention, un bisou, ça peut être considérable. Ça a donné, ça a lesté un peu nos gestes. Tant mieux, ça a donné plus de poids. Et ça a rappelé que la limite de notre futilité,
ouais.
C'est pas si mal. Bien sûr que c'est dans la crainte, mais quand la crainte sera partie, il nous restera quand même un petit doute sur ce que nous sommes.
Vous pensez que ce doute-là, cette conscience de notre mort finalement, parce que on vit tous un petit peu comme si nous étions immortels et c'est profondément humain et les générations avant nous l'ont probablement fait de la même façon. En ayant plus conscience de ça, vous pensez que ça ne disparaîtra pas, ça restera beaucoup plus présent dans notre esprit?
Oui. Vraiment, je le crois. Ça, je le crois. Regardez, bon, je suis, pas moi, mais Boris aussi, on en a souvent parlé.
Oui.
Les jeunes, hein, les plus jeunes, cette jeune génération, a plus conscience de l'environnement, de la finalité, de la fin même de notre civilisation.
Oui.
De la relativité de notre place, de nos professions, de nos diplômes. On est dans une période antichambre. Ils attendent un changement. D'ailleurs, c'est assez répété partout dans tous les médias. Ils ont la conscience de la relativité de leur existence. Et pour ça que de la futilité de tous les jours, cette génération-là. Et du coup, il y a une espèce de hiatus entre la génération installée, les vieux, quoi, qui sont plutôt conservateurs, qui ne comprennent pas cette espèce d'angoisse matinée et doublée d'espérance qu'ont les jeunes générations. Il y a une incompréhension. Et l'espérance ne se trouve pas du côté des vieux. Se trouve dans on est dans une situation d'attente. Attendre quoi, je ne sais pas. C'est là où il faut mettre notre espérance. Mais on est ce que j'appelle un état antichambre.
Oui.
On attend quelque chose.
Sans savoir quoi, mais on attend quelque chose.
De changement.
Est-ce que cette attente, il y a une forme d'intuition, comme ça, sans pouvoir, bien sûr, lui donner forme, lui donner vie, une forme d'intuition? Savoir qu'il se passera quelque chose intuitivement.
Mais je pense que, vous voyez, c'est cette épidémie largement racontée, parce que c'est dans les temps anciens.
Oui.
Une épidémie, c'était la fatalité.
Bien sûr.
Là, dans notre civilisation, il y a eu un récit constant à travers toute la planète. On a raconté quelque chose de dramatique, d'ailleurs, de la contagiosité, de peur. Regardez, le soir, en Europe, mais aussi un peu partout, on applaudissait
les médecins.
De 8h à 8h02. On applaudissait les soignants. Mais c'est quoi les soignants? C'est qui? C'est une espèce d'entité, une espèce d'idole qu'on avait créée, qui ne représentait ni les infirmières, ni les médecins, ni les aides-soignants. Une espèce d'entité tutélaire. On avait créé quelque chose, fait venir dans le monde réel une espérance, quelque chose qui nous protégerait. Donc, cette attente, elle a cette forme-là, si vous voulez. Et c'est ça qu'a donné ce moment très étonnant de notre crise.
Il y a une chose aussi qui a peut-être, alors, rapproché les peuples, je ne sais pas si c'est un grand mot ou si le terme est juste, mais au moment où le monde entier, ou en tout cas 4 milliards d'individus quasiment étaient confinés en même temps, moi j'ai eu l'impression d'une communion au travers d'une épidémie, c'est un petit peu antagoniste comme propos, mais j'ai eu l'impression d'une forme de chaleur, et pourtant c'était pas terrible, chacun était enfermé chez soi, dans son pays, dans sa ville, et pourtant j'ai eu l'impression que, oui, là il se passait quelque chose, et j'ai craint qu'après ça disparaisse, que cette espèce de communion mondiale disparaisse.
Non, mais c'est un traumatisme fondateur.
Oui.
Il s'est passé là, c'est comme la guerre, si vous voulez.
Oui.
Pendant quelques années, on a vécu dans l'euphorie de l'après-guerre. Et là, c'était une période de construction de nos lois sociales en particulier. là, vous savez quoi? Par exemple, on pense au SDF pendant l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on partage quelque chose l'hiver, la sensation de froid. Et on se dit, les gens qui sont dans la rue, ils ont la même sensation, ils sont moins défendus que moi, qui ai froid. Et là, on a eu cette sensation d'angoisse et de finitude, tous ensemble. On a partagé ça. Et le partage, même s'il était un peu pathologique, ce partage nous a fait un sentiment d'appartenance. On a eu peur ensemble. On a espéré ensemble. On a attendu ensemble. Bien entendu que les politiques en ont profité, ici ou là, les laboratoires en ont profité. Mais on a partagé quelque chose ensemble qu'on continuera à partager. Voilà mon idée.
Et vous qui bougez dans le monde, voyagez dans le monde entier de par vos fonctions, ce sentiment d'intuition, d'un changement, comme vous dites, d'une antichambre dans l'attente de quelque chose, ça n'est pas seulement en France, dans l'Hexagone, c'est quelque chose qui se perpétue comme ça, qui est une sorte d'onde qui se promène à travers dans les autres pays, vers les autres.
Oui, parce que mais ça se traduit pas de la même chose. Par exemple, les gens croyants pensent prient plus ou attendent plus, quelle que soit la religion, ça c'est sûr. Il se passe quelque chose qui prend des formes multiples selon les endroits où elle se manifeste. Mais vous avez raison, une espèce de comme une vague qui se répand. Une vague avec des crêtes et des basses, si vous voulez. Mais vous avez l'impression, vous voyez, le clapotis de la mer, c'est pas étal, mais il y a des choses qui se passent. Et c'est marrant que vous l'ayez senti, parce que c'est un peu comme ça partout où vous voyagez. Vous sentez ça. Et l'État antichambre. L'État en viendra pas, c'est sûr que les recettes du passé marcheront pas. Et on attend quelque chose, mais qu'on ne peut pas décrire. Quoi. On ne sait pas, on n'a pas les mots.
Oui, bien sûr. Alors, vous dites que les recettes du passé ne marcheront plus. C'est à tous les niveaux, c'est-à-dire politique, social, humain.
Oui, je crois ça. Je crois ça.
Donc ça
c'est pour ça que la grande erreur,
moi,
pour moi, c'est les mots comme... réindustrialisation, les mots de développement et tout ça, c'est si vous voulez, c'est sans résonance. Parce que les gens savent bien que ça ne reviendra pas comme avant. Ils le sentent. Ça ne peut pas revenir comme avant. On a une crise qui nous a touchés. Comment voulez-vous qu'on revienne comme avant, comme si de rien ne s'était passé? En plus, les gens ont eu peur, ils ont senti ce qu'ils ne savaient pas. Par exemple, qu'on peut mourir. Vous voyez qu'on revient dans la loi sur la fin de vie.
Oui, tout à fait.
Vous voyez, c'est un peu vulgaire, si vous voulez, mais vous apercevez que des préoccupations autres. On verra bien, si ça se trouve, ça sera le désert, mais je ne le crois pas. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Et vous êtes d'accord qu'il s'est passé quelque chose.
Ah oui, de toute façon, ça c'est certain.
C'est comme une vague qui va qui est entrée un peu plus profond dans les terres que d'habitude.
Vous pensez aussi que notre rapport au voyage aussi va être différent, sera différent? Parce que finalement, c'est important parce que les gens se déplacent beaucoup. C'est facile de se déplacer. On voyagera différemment.
Mais oui, parce qu'elle se dit, merde, qu'est-ce que j'utilise comme carbone?
Oui, c'est vrai. Ou est-ce que je devrais porter le masque? Ou est-ce que je devrais être vaccinée?
Ah, ils sont entre les deux. Ils sont entre les deux. Puisque c'est la fin présumée de l'épidémie. On n'est pas sorti tout à fait de l'épidémie, on n'est pas rentré tout à fait dans une endémie, c'est-à-dire où le virus sera parmi nous, comme la grippe, comme les maladies infectieuses qui vont et viennent, qui de temps en temps ne donnent pas des vagues, mais des bouffées saisonnières, que sais-je. Et c'est pas comme s'il n'y avait rien.
Mais on va finir par le combattre, ce virus, l'éradiquer, un jour ou l'autre.
Oui, non, mais il va devenir sage et tranquille. Mmh. Mais il sera avec là, il sera avec nous.
Oui. Bon.
Il sera pas annihilé. Oui. Il sera parmi nous.
D'accord. Mais plus on pourra mieux vivre avec, c'est ce que vous voulez dire.
Il faudra bien. Hein.
Il faudra bien.
Oui. Il faudra bien. L'humanité, vous savez, elle a toujours survécu, elle survivra. Mm-hmm. Ça, j'en suis sûr.
En tout cas, c'est un livre fort intéressant, « Se reconstruire dans un monde meilleur » aux éditions Human Sense, que vous avez écrit en collaboration avec votre ami Boris Cyrulnik. C'était un moment très intéressant, très touchant aussi de parler avec vous, d'avoir ce point de vue sur ce dialogue, sur ce très joli livre illustré par vos mains, votre coup de crayon et coup de pinceau très, très agréable. Merci infiniment, docteur Xavier Manuelli, de m'avoir accordé ce moment pour votre livre. Et puis, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture seul ou à quatre mains de nouveau?
Je crois que ça m'a redonné l'envie de dessiner.
Ah, voilà. Voilà, ben pourquoi pas faire une BD sur le Covid.
Alors, merci.
Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Et bien, quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes. En attendant, prenez soin de vous et belle aventure littéraire. À bientôt, merci de votre fidélité.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon. Sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo. On a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on peut. Quand vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si ce monde s'accroche. Être si loin nous rapproche. Même pour parler de rien, du bleu du ciel, surtout donne-moi des nouvelles. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on peut. Quand vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si ce monde était encore heureux. On fait comme si on n'était pas là. Parents, amis, on se de plus. sûr que nos vies d'après seront plus belles. Surtout, donne-moi des nouvelles.